Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. 2 ans après le 13 novembre, reprendre corps. C'est ainsi que nous avons intitulé cette émission pour évoquer, au-delà de l'intervention d'urgence, de la reconstruction psychologique après le traumatisme, le long parcours, le douloureux cheminement physique pour ceux que le déchaînement de violence de cette soirée du 13 novembre 2015 avait atteint dans leur chair. 2500 victimes indemnisées au total au début de ce mois, 576 victimes blessées physiquement, alors qu'au soir des attentats, 413 blessés avaient été pris en charge par les secours et hospitalisés. Des rescapés de la salle du spectacle du Bataclan, survivants des terrasses, des cafés des 11e et 10e arrondissements de la capitale et des abords du Stade de France de Saint-Denis. 413 personnes hospitalisées, en plus des 130 morts. Fractures, impact auditif, cardiaque, gastrique, capacité altérée, l'image aussi de ce physique abîmé qui s'ajoute au traumatisme toujours présent. Avec nous en studio, le professeur Éric Lapeyre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de médecine physique et réadaptation de l'hôpital d'instruction des armées de Percy à Clamart, professeur agrégé du Val-de-Grâce, consultant national de médecine physique et de réadaptation pour le service de santé des armées. En deuxième partie d'émission, nous retrouverons en Côte d'Ivoire le docteur Simplice Dagnan, directeur général de la santé de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons évoquer la gestion sanitaire après l'attentat de Grand Bassam, cette cité balnéaire de Côte d'Ivoire, visée le 13 mars 2016 par une attaque terroriste qui avait fait 19 morts et 24 blessés.
RFI.
2 ans après, professeur Éric Lapeyre, un premier point qui atteste de l'impact durable de ces attentats du 13 novembre. Il s'agit de changements qui engagent l'avenir de la profession depuis cet événement. Et cela a un rapport avec la formation des médecins. Les étudiants en médecine doivent suivre un enseignement autour de la gestion des urgences collectives. Tous les étudiants, et non plus seulement les urgentistes comme avant le 13 novembre.
Oui, tout à fait. C'était peut-être une des grandes particularités, j'allais dire un peu dans ce lien armée-nation, c'est-à-dire que l'expérience apportée par le service santé des armées et le ministère de la Défense au travers des conflits, des récents conflits, et puis parce que c'est notre cœur de métier, a été transmis, je veux dire, ou est transmis au monde civil à travers effectivement des formations et puis l'application de ces nouvelles techniques qui sont à la fois des techniques très particulières de prise en charge de secourisme, de formation de secourisme de l'avant, d'utilisation du garrot et puis aussi des processus tels que par exemple ce qu'on appelle le damage control, c'est-à-dire que effectivement si j'ai une avarie sur le bateau, hein, c'est un terme de la Navy, si j'ai une avarie sur le bateau, je colmate l'avarie, je ramène le bateau au port et je fais la réparation après.
C'est-à-dire on séquence l'intervention.
On séquence l'intervention. C'est ce que nous on a pratiqué sur les théâtres. Si on prend par exemple le théâtre de l'Afghanistan, on met des secouristes, on met des médecins au plus près des combattants et on applique des gestes très spécifiques. Le fameux tourniquet, le fameux garrot qu'on réutilise là depuis une dizaine d'années. C'est issu de ces processus. Certains ont d'ailleurs été utilisés lors des récents événements, des récents attentats.
Alors autre conséquence des attentats. C'est l'augmentation des vocations de médecine de guerre en école de médecine, professeur Éric Lapeyre.
J'allais dire tant mieux. Tant mieux pour nous, parce que pour la formation, c'est important. C'est effectivement une vocation et des choses qui sont apparues progressivement, c'est-à-dire qu'effectivement, ce nouvel intérêt porté à cette technique de médecine, de chirurgie de guerre, enfin, il y a un peu tout, si vous voulez. Il y a de l'avant, un peu du SAMU de l'avant, il y a de la chirurgie, il y a de la réanimation, il y a de la psychiatrie, il y a des processus de rééducation, de réadaptation médico-sociaux qui ont été justement remis à l'ordre du jour.
Alors on va revenir sur tous ces points pendant l'émission et justement avant d'aborder avec vous professeur Lapeyre cette prise en charge très particulière liée à ces attentats terroristes, le parcours de soins du patient victime, si vous le voulez bien un témoignage et on va se retrouver juste après. Alors ce témoignage c'est le vôtre, Fred DeWille, bonjour.
Bonjour.
Votre récit dans notre émission, un récit que vous avez couché sur le papier. Le livre s'appelle Mon Bataclan, mi-bande dessinée, mi-récit. Il a été publié moins d'un an après le 13 novembre chez l'éditeur Le Mieux, Fred De Wild. On a enregistré cet entretien parce que le 13 novembre, vous participez aux cérémonies d'hommage, de recueillement à Paris. 2 ans après ces événements, quel regard gardez-vous sur ces moments avec le temps qui a passé, ces 2 années? Est-ce qu'il vous reste encore des images, des flashs ou plutôt un souvenir confus?
Souvenir pas assez confus à mon goût. Là, l'approche de l'anniversaire provoque les cauchemars d'une manière assez renforcée. Après la sortie du livre, besoin de le reprendre plusieurs fois pour pouvoir me dire que oui, en effet, je l'avais bien vécu. Parce que le sentiment de l'avoir vécu est inscrit dans une temporalité qui est toujours très 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 étrange. On a encore un rapport, en tout cas moi, et je pense pas mal de survivants, un rapport au temps qui est très étrange. Quand on est sorti de là, on ne savait plus dire si on venait de vivre une seconde, une heure, 2 heures, une nuit. Et ce rapport au temps n'est toujours pas là. Cette capacité récupérée de projection n'est toujours pas complète.
Ce retour au réel, et en même temps, vous dites, d'une certaine manière, je n'ai plus envie d'avoir ces souvenirs récurrents qui me reviennent.
Non, on est, je pense, à un état psychologique maintenant qui commence à dire, voilà, on commence à oublier, mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment envie d'oublier? On est victime, mais on n'a plus envie d'être victime. Mais en même temps, il faut lâcher ce statut. C'est, psychologiquement parlant, c'est quelque chose d'assez étrange.
Vous racontez dans votre récit, il y a une partie texte après la bande dessinée que vous avez en fait répété encore, à l'envi ressasser quasiment les événements. Est-ce qu'il vous arrive encore aujourd'hui de décrire par le détail ce qui s'est passé ce soir-là lorsque vous êtes allé au Bataclan voir ce concert de rock et ça s'est fini en bain de sang?
De le revoir, oui. Malheureusement, ça fait encore partie de tous mes jours.
Mais vous arrivez encore à l'énoncer, à le dire?
Ah oui, l'énoncer, je peux en parler. Il y a très peu de personnes à qui je n'en ai pas parlé. Donc, le besoin de l'évoquer, c'est pas un besoin, mais ça peut tout à fait arriver dans une conversation.
Est-ce que justement, à un moment, ça a été un besoin?
Ah oui, dès le départ, c'est un besoin. Maintenant, là, je travaille sur le tome 2, qui est beaucoup plus porté sur l'après. Tout ce que j'ai vécu après, ce que je n'ai pas pu dessiner la première fois.
Oui, parce que le livre, vous l'avez écrit assez vite, 6 mois après les dessins étaient terminés.
Il est sorti en octobre, j'ai commencé les dessins 3 mois après l'attaque. Le texte a été fait dans la foulée, donc on va dire en gros 6 mois, 7 mois, le livre était écrit.
Dire une BD thérapie, ce serait cliché?
Non, c'est exactement ça. Pour moi, c'était le moyen de me réapproprier cette soirée. Ce temps-là, on nous l'a volé. On a été complètement débordé par les émotions, par le vécu, l'inimaginable. C'était pour moi très clairement un moyen de le revivre avec mes mots, avec mes traits, et de voir, de comprendre ce que j'avais vécu ce soir-là.
Alors, il y a une personne importante dans ce livre. Vous parlez beaucoup de votre famille, qui est vraiment très importante, mais aussi cette jeune fille rencontrée dans l'horreur. Vous la prénommez Elisa dans la BD, avec qui vous avez partagé ces moments terribles. Est-ce que vous l'avez revue?
Bien sûr. On est en contact régulier. Là, elle fait sa silencieuse, et je ne l'ai pas vue depuis avant les vacances. Mais bon, on est malgré tout par texto ou autre. On sait qu'on doit se revoir et on se reverra. Ça, il n'y a aucun souci.
Vous, dans votre chair, vous étiez indemne. Elle a été blessée. Comment ça s'est passé après la réparation, la rééducation?
C'est long. Parce que ça fait appel à des ressources psychologiques autant que médicales. Quand vous avez été blessé dans votre chair, quand vous avez pris une balle, suivant la manière dont vous le prenez, ça peut changer toute la réparation. Bon, à la base, il faut quand même savoir que c'est des blessures de guerre, donc qui sont assez destructrices. Les gens qui s'en sont sortis après avoir pris une balle, voire plusieurs, sont vraiment extrêmement chanceux. Mais les dégâts sont toujours énormes.
Vous appartenez à l'association Life for Paris qui s'était montée tout de suite après.
Tout à fait.
Est-ce que dans ce cadre, vous avez rencontré justement d'autres blessés dans leur chair ?
Oui. Des gens qui ont été blessés, des gens qui ont perdu quelqu'un. Tous les types de situations dues, entre guillemets, survivant qui a échappé aux premières minutes et qui est sorti de l'aidant simple qui a sauvé des vies ou une vie, ou de celui qui s'est retrouvé enfermé avec les terroristes. J'ai été en contact avec... directement, je sais pas, 100, 150 survivants sur les 1200 qu'il y avait dans la fosse. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal.
C'est une communauté un peu spéciale.
Très spéciale. Pour moi, c'est des frères et des sœurs de misère. Comme il y a les frères d'armes. Je comprends maintenant ce sens, cette notion-là.
Est-ce qu'on a mis un nom sur ce que vous avez ressenti? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, cette étiquette de stress ou de choc post-traumatique? Est-ce que vous avez été diagnostiqué?
Oui, bien sûr. Le suivi, ou du moins l'impératif de suivi psy, pour moi, était une évidence. Pas mal de gens ne l'ont pas fait, mais en tout cas, il était proposé. À mon sens, pas forcément dans des conditions idoines, c'est-à-dire par des gens qui n'étaient pas forcément formés à ça. Mais après, c'est à chacun de faire la démarche et d'aller trouver la personne qui vous va. Moi, j'étais déjà en contact avec une psy. Donc j'ai continué le travail avec elle parce que j'ai pas voulu me lancer dans une recherche après un échec dont je parle dans mon livre. J'aurais été parler à un chien, je pense que ça aurait été plus efficace. Donc j'ai continué avec ma psy et j'en suis très satisfait.
Dans la bande dessinée, vous avez dessiné donc ces heures très sombres, hein, c'est très réduit dans le temps, votre récit, un traitement de ténébreux aussi, du noir et blanc, beaucoup de noir, le noir domine, une quinzaine de planches, et seul le public, les artistes du Bataclan ont un visage, les autres, les tueurs, ce sont des squelettes, c'est la mort.
C'est un peu ce qu'il voulait en soi. Hein. Moi, la première image qui m'est venue, c'était celle des armes, mais ça suffisait pas. Je voulais pas les personnifier. J'ai mis un mois et demi avant de comprendre que les représenter sous forme de cavaliers de l'apocalypse, c'était pour moi une solution.
Fred De Wilde, merci. On va se retrouver tout à l'heure en deuxième partie d'émission pour poursuivre cet échange. Professeur Éric Lapeyre, on vous retrouve. Hein. Je rappelle que vous êtes chef du service de médecine physique et réadaptation à l'hôpital d'instruction des armées de Percy-à-Clamart. Tout d'abord, une réaction à ce témoignage de ce survivant du Bataclan de cette nuit du 13 novembre.
Oui, écoutez, j'ai trouvé ce témoignage très fort et très parlant. Voilà, très parlant parce que d'abord, il parle très très bien de ce qu'il a, de ce dont il souffre. Hein. Il le dit d'ailleurs très clairement, c'est un état de stress post-traumatique. Et on retrouve là tout l'archétype hein, de cet état de stress, c'est-à-dire cette sensation d'abord de mort imminente, voilà, cette sensation de déréalisation, et puis après la persistance de symptômes dont il parle assez bien et qu'on comprend qu'il les aménage, c'est-à-dire les cauchemars, ce qu'on appelle nous l'ecmnésie, c'est-à-dire l'état de reviviscence. Ces patients sont pas fous, mais brutalement, un bruit, une odeur, clac, ça déclenche un flash visuel ou un flash auditif. Enfin voilà, ils peuvent se retrouver brutalement immergés dans la scène. Il en parle assez bien. Il parle aussi d'une chose que j'ai trouvé très très intéressante, c'était ses camarades de guerre. Et surtout, il parle bien de ses amis qui ont été victimes de blessures physiques. Il parle bien aussi de ce qu'ils doivent. L'enjeu pour eux, l'affrontement, ça m'interpelle moi qui suis médecin de médecine physique. Les gens qui travaillent là-dessus, qui modélisent le handicap, disent que c'est l'interaction entre l'individu et son environnement. Et l'individu ne doit pas être dissocié, c'est une entité physique et psychique.
On soigne pas une jambe.
Exactement. Si j'ai une atteinte à mon intégrité physique, il faut que je sois en capacité de mobiliser ou qu'on m'aide à mobiliser des ressources psychiques pour faire face et interagir avec mon environnement.
On va parler de ces blessures précisément, professeur Éric Lapeyre. Est-ce que les armes utilisées ce soir-là, les armes de guerre, les explosifs qui ont été déclenchés par les terroristes, impliquent des blessures spécifiques ?
Je dirais que ces blessures, elles sont les mêmes que les blessures de guerre. Voilà, on a eu à la fois des victimes d'explosions, hein, des victimes de ce qu'on appelle le blast, hein, qui est quelque chose, une lésion très particulière, hein, polylésionnelle, et puis ces blessures qu'on appelle nous balistiques, les blessures par balles. Donc ça a été essentiellement, et puis j'allais dire, ne jamais oublier des blessures psychiques aussi, c'est-à-dire qu'au plus près j'ai été d'un événement qui m'a impacté sur le plan physique, au plus près j'ai vu des choses qui m'ont bousculé sur le plan psychique.
Est-ce que la localisation de ces blessures, de ces lésions, est la même que celle pour les blessés de guerre, ou est-ce que les régions, les lieux visés sont différents ?
C'est exactement la même, hormis le fait que nos combattants ont certaines protections, en particulier, je veux dire, ils portent un gilet pare-balles, ils portent un casque, donc peut-être la blessure de la tête est parfois moins importante chez le blessé militaire, et aussi la protection de l'abdomen et du thorax. Donc il y a peut-être un petit peu plus de lésions du thorax et de l'abdomen, mais en fait il y a essentiellement, voilà, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que il faut pas saucissonner le patient, voilà, en particulier sur ses aspects physiques. C'est pas une amputation, une brûlure, une atteinte de la moelle épinière, c'est-à-dire une paralysie des deux membres ou des quatre membres, c'est pas des fractures, c'est l'association de tout ça qui fait la particularité de ces blessures.
Et justement, les médecins, les infirmiers des hôpitaux civils, y compris ceux qui sont confrontés à des accidents très très graves, accidents de la route, on y pense forcément, des traumatismes, tous ces personnels de santé n'étaient pas préparés, professeur Éric Lapeyre, le soir du 13 novembre ?
Oh, pas préparé, je dirais pas ça, parce que effectivement, les gros services d'urgence ont l'habitude de voir.
Et puis on l'a
voir...
vu, ils y ont fait face de toute
voilà,
façon.
Voilà, ils ont fait face de toute façon. Donc c'est des contextes aussi très prévisionnels qu'ils ont l'habitude de voir. Après, il y a les particularités qui sont les singularités qui sont, par exemple, quand vous avez une explosion, c'est ce criblage, par exemple, c'est ces lésions de criblage. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est des techniques chirurgicales dites de guerre que nous on applique, qu'on a l'habitude d'appliquer, maintenant d'ailleurs le sont. Hein. Je vous parlais du damage control, ça obéit à des techniques chirurgicales très particulières. On a peut-être pas le temps de les détailler, mais par exemple, quand vous avez une lésion abdominale, si la rate saigne, on enlève la rate, mais il se peut que le temps qu'on rapatrie le patient ou que, effectivement, on prenne d'autres décisions, la réparation définitive quand on arrive au port, eh bien, on puisse laisser des techniques chirurgicales dites de packing, on bourre de compresse et on laisse l'abdomen ouvert. Les membres, par exemple, eh bien, on va pas faire la réparation d'emblée. On va mettre des fiches, ce qu'on appelle les fixateurs, réaligner les membres et on fera la réparation secondairement. Voilà, c'est un peu ça.
Pour imaginer les scènes de secours, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs brancards côte à côte. On va sur un blessé, un premier, on le laisse en attente. On va sur un deuxième blessé, on le laisse en attente. Ou comment ça se passe?
Ça, par contre, ce sont des schémas qui sont bien connus aussi du monde civil en cas de médecine de catastrophe.
Et voilà. On parle des médecins, mais il faut parler aussi des pompiers, des secouristes.
Mais il faut parler de tout ça, même quand on parle de ma spécialité. Voilà, il faut parler des paramédicaux. Voilà, il faut parler de leur formation justement sur le terrain, au plus près de l'avant. Voilà.
Et ce soir du 13 novembre, est-ce qu'on a vu justement des gens dans la rue, des civils improviser des gestes de premiers soins, de premiers secours? On a vu, en tout cas après les attentats, un nombre très important de personnes s'inscrire ces formations
voilà,
de premiers soins.
Voilà, je sais qu'en particulier, puisque j'ai un lien affectif avec la BSPP, avec la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, puisque j'y ai été médecin, et effectivement, et je connaissais bien d'ailleurs, je connais bien les généraux qui la commandent, puisque c'était des jeunes officiers quand j'y étais, effectivement, ils m'ont dit qu'effectivement, il y a eu un regain et qu'ils ont assuré eux-mêmes des formations auprès de la population civile. Oui, il y a eu un regain pour le secourisme, et tant mieux, et tant mieux.
Vous nous décrivez ces différentes séquences, justement, quand on prend en charge les blessés. Ce qui est totalement imprévisible dans ce genre de situation, c'est l'afflux, c'est le nombre. On a parlé du plan blanc. Comment on fait face, justement, dans des hôpitaux où, forcément, il y a une forme de régulation, un certain nombre de blessés qui arrivent normalement dans une situation aussi extraordinaire?
Alors, là aussi, ça fait aussi partie, parce que on a dit, c'est des techniques, c'est aussi des processus. Vous voyez, ça, c'est des processus que nous, on maîtrise bien, qu'on a mis en place, d'ailleurs, le soir de ces attentats. Par exemple, quand on est sur les théâtres d'opération, on a un plan particulier qu'on appelle mass casualty. Donc, quand ça veut dire beaucoup de pertes, beaucoup de blessés. Et donc, on active tous les personnels, voilà, qui spontanément d'ailleurs sont revenus, et avec quelque chose qui est paramétré. On sait qu'à une table, vous allez avoir deux infirmiers, deux médecins urgentistes, le réanimateur à la table, et puis on va avoir comme ça une vision, un infirmier anesthésiste, et on va avoir comme ça une vision. Il ne faut surtout pas que le chef réanimateur, par exemple, rentre dans la scène. Voilà.
C'est rester organisé malgré une désorganisation maximum.
Voilà, exactement. D'ailleurs, c'est très rassurant, à la fois pour les patients, quand ils sont conscients, et pour les équipes.
De voir qu'on n'est pas débordé, on n'est pas dépassé,
oui,
on continue à assurer.
C'est quasiment du processus d'avionique. Vous savez, dans les pilotes d'avion, ils ont des checks, c'est à peu près du même type.
Chacun à sa place,
chacun à
son
sa
rôle.
Place, chacun son rôle.
Et on ne déborde pas même dans une situation aussi exceptionnelle. Vous restez avec nous, professeur Éric Lapeyre. On va se retrouver dans 3 minutes après les informations, toujours pour parler des blessures du 13 novembre, la suite du témoignage de Fred De Wild, rescapé du Bataclan. Et nous irons aussi en Côte d'Ivoire pour parler de comment ça s'était passé dans la ville de Grand Bassam, frappée en mars 2016 par les terroristes. À tout à l'heure.
Priorité santé. Caroline Paré.
On se retrouve pour cette seconde partie de Priorité Santé, 2 ans après les attentats du 13 novembre, blessures du 13 novembre, prise en charge des victimes, polytraumatisme, blessures internes, chirurgie multiple, greffe, suite opératoire et rééducation. Nous sommes toujours en compagnie du professeur Éric Lapeyre, chef du service de médecine physique et réadaptation de l'hôpital d'instruction des armées de Persia à Clamart. Professeur Éric Lapeyre, difficile bien sûr j'imagine de répondre à ces questions, mais quel type de rééducation ont été mises en place après les attentats? On peut parler là du cas de l'hôpital de Percy où vous êtes actif.
Oui, nous avons eu, d'ailleurs en collaboration aussi avec l'Institut National des Invalides, beaucoup de patients à prendre en charge qui obéissaient, j'allais dire, aux archétypes de la blessure de guerre. Hein, c'est-à-dire des lésions très complexes, multiples, voilà, on va dire des grands fracas, avec des lésions, des atteintes nerveuses qui généraient des paralysies, des lésions de la moelle épinière avec des paralysies, des traumatismes crâniens, des amputations, voilà. Donc c'est la complexité de ces lésions qui nécessitent, dans un premier temps, si vous voulez, toujours des séquences chirurgicales. Hein. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que les gestes chirurgicaux, j'allais dire, de sauvetage ou de réparation initiaux ont été réalisés qu'il ne faut pas de nouveau réopérer. Il y a de multiples opérations. Donc il faut se parler avec les services chirurgicaux, programmer ces choses-là, redonner dans un premier temps ce qu'on appelle rééduquer dans un premier temps, c'est-à-dire redonner de l'autonomie aux patients pour les activités de la vie quotidienne, des choses basiques, hein. La toilette, l'habillage, l'alimentation, marcher, prendre, interagir, parce qu'on est traumatisé crânien, c'est ce fameux handicap invisible. Et puis ensuite, passer ces phases, on commence à rentrer dans un cadre plus ambulatoire, on commence à laisser sortir le patient, les week-ends, il reste la semaine, et puis on envisage ce processus de réinsertion, ce processus médico-social assez complexe, hein, et assez fin, qui nécessite l'intervention d'élargir un petit peu le champ des acteurs médico-sociaux.
Alors, hôpital de jour aujourd'hui pour ces patients ?
Oui, pour pratiquement pour la grande majorité.
Vous en suivez combien à peu près ?
Écoutez, on a justement, c'est intéressant comme question parce que je vous ai entendu donner des chiffres là tout à l'heure. Je sais, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec le Fonds de garantie, avec l'Office national des anciens combattants. Il faut savoir aussi que quand on est victime d'attentats sur le sol français, qu'on soit d'ailleurs français ou étranger, on peut bénéficier d'une réparation juridique, hein, via le Fonds de garantie, puis le Code des pensions militaires. On est pensionné militaire d'invalidité. Vous avez parlé de 500 blessés physiques et je sais par le Fonds de garantie qu'il y a à peu près 150 dossiers très lourds. Et je dirais que le service santé des armées, le ministère de la Défense, est en capacité de prendre plus d'une cinquantaine de ces patients très lourds. Voilà. Qu'il continue à prendre en charge et qu'il continuera à prendre en charge.
Certain nombre de ces blessés sont suivis donc en médecine de ville, éventuellement, ou dans un cadre hospitalier civil ?
Oui, aussi.
Mais vous êtes, on peut dire, un petit peu décentré par rapport aux Parisiens. En tout cas, aller à Clamart, c'est pas forcément ça. Mais comment ça se passe?
On n'est pas très loin du périphérique quand même, oui, n'exagérez pas.
Je suis bien d'accord, mais on peut imaginer, par exemple, pas par rapport forcément au Bataclan, où les gens venaient un petit peu de tout Paris dans cette salle de spectacle. Au Stade de France, il y a eu moins de victimes. Mais pour, par exemple, les victimes des terrasses, en général, c'était peut-être des gens un peu du quartier qui étaient sortis ce soir-là.
Oui, tout à fait.
Donc, il y a des impératifs... complexe du quotidien, aller se faire soigner, comment ça se passe?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans un premier temps, d'abord, il y a, j'allais dire, je vais paraître peut-être un petit peu, voilà. Disons qu'il y a notre notoriété qui fait qu'effectivement on me demande. Il faut savoir quand même que le service, l'hôpital dans lequel je suis et le service que j'ai l'honneur de diriger a accueilli la plupart des blessés de guerre depuis les 15-20 dernières années. Et aussi des victimes d'actes de terrorisme. Nous en avons déjà eu. Personnellement, j'ai dans ma patientèle les patients de la rue de Rennes, des attentats de Saint-Michel. Voilà, il y a eu d'autres événements.
Pour nos auditeurs qui sont très jeunes, c'est les années 80-90.
C'est les années 80, déjà des victimes d'attentats. Voilà. Et il y a toujours eu cette expérience, ne serait-ce que parce qu'ils bénéficient de ces pensions militaires d'invalidité. Donc, il y a cette partie-là. Et puis, vous savez, quand vous êtes pris en charge dans un milieu qui vous agrée, je pense que vous restez dans un cadre hospitalier dans un premier temps. Et on continue à les suivre. Parce que c'est une problématique de toute une vie. Souvent, ce sont des situations de handicap. Ça obéit au principe de la médecine physique. C'est-à-dire que c'est un continuum. C'est une prise en charge de toute une vie.
On est 2 ans après, ça veut dire que l'année prochaine, ces personnes continueront d'être suivies par vos services.
Suivies dans un cadre ambulatoire ou consultation, mais voilà, et quand on ne les voit pas, tant mieux. Mais on doit être en capacité de répondre à leurs problèmes quand il y en a un.
Alors, on parle rééducation, réadaptation. Il y a encore des gens qui se font opérer aujourd'hui des suites de ces blessures.
Ça arrive encore, ça arrive.
Et quels praticiens sont impliqués justement dans le parcours de soins?
Alors, on a parlé des chirurgiens, on a parlé des réanimateurs, on a parlé des urgentistes, mais par exemple, si vous prenez le service que je dirige, eh bien, il faut savoir qu'il y a 13 corps de métiers différents. Voilà. On a besoin effectivement d'infirmiers, d'aides-soignants, de kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes, de psychomotriciens, de psychologues, de neuropsychologues spécialisés dans la prise en charge des traumatismes crâniens, d'orthophonistes, enfin oui, c'est éminemment complexe. Il faut coordonner l'action de tous ces paramédicaux qui jouent un rôle éminemment important.
Comment ça se passe justement au niveau du suivi? Comment se passe ce travail de coordination? Il y a un médecin qui est chargé des dossiers en particulier pour connaître les besoins, connaître les contacts, connaître les spécificités de chacun de ces parcours?
Tout à fait. La prise en charge, elle est chez nous, en tout cas chez nous et dans la plupart des services de médecine physique, elle est seniorisée. Voilà. Et c'est rassurant aussi pour le patient d'avoir un médecin référent qui coordonne l'activité. Alors après, quand on est sur des blessures lourdes et qui durent longtemps, si vous voulez, on fait de façon récurrente, régulièrement, on fait ce qu'on appelle les consultations internes, on réexamine le patient de A à Z et surtout on fait des réunions de synthèse. Voilà. Et à l'issue de cette réunion de synthèse où tous les intervenants sont là, où on fait le point, où on refixe des objectifs, parce que le temps passant, eh bien, les choses évoluent, et ensuite on fait une réunion de famille où, effectivement, on informe le patient des projets à venir, de l'état actuel et des projets à venir.
Professeur Éric Lapeyre, on va vous retrouver dans quelques minutes pour poursuivre cet échange. On se retrouve en compagnie de Fred De Wild, auteur de la BD Mon Bataclan, mi-bande dessinée, mi-récit, publié moins d'un an après le 13 novembre aux éditions Le Mieux. Fred De Wild, le sentiment de peur, d'angoisse qu'on retrouve dans votre livre, est-ce qu'il s'est dissipé aujourd'hui ?
Il s'est transformé. Je réussis à contrôler. Et si je me retrouve plongé dans une situation que je n'avais pas envie de vivre, cet été, comme le livre a été traduit en tchèque, j'ai été en Tchéquie. Et il se trouve que c'était dans le cadre du Festival Colors, qui est un festival absolument énorme. Chose que je ne pratique jamais, parce que j'ai horreur de cette foule immense. Je me suis retrouvé plongé dedans. J'ai sorti mon petit quart de comprimé, ou demi, je sais plus. Et puis, on y va, parce qu'il y a un moment, il faut aussi essayer d'affronter la vie, le futur, et que tout n'est pas planifié. Moi, j'ai toujours refusé de m'enfermer dans mon statut de victime. J'ai repris le métro le mercredi après les attentats, voire même un petit peu avant, peut-être le mardi. La vie me force pour moi à aller de l'avant. C'est ce qui, je pense, m'a sauvé. C'est pas du tout un jugement de valeur sur ceux qui n'en sont pas encore capables.
Justement,
mais il y a toujours ces appréhensions. De toute façon, j'ai maintenant plus d'appréhension à me coucher, par exemple, se coucher. La nuit est encore quelque chose de compliqué, quelque chose de très difficile. L'appréhension du cauchemar, des choses que je ne connaissais absolument pas avant.
Tout à l'heure, on a parlé justement de ces personnes que vous fréquentez dans le cadre de l'association Life for Paris. D'autres rescapés, vous rencontrez des gens chez qui, justement, aujourd'hui encore, c'est vraiment une sorte d'enfermement, d'accablement. Impossible pour l'instant d'en sortir ?
Oui, difficulté à retrouver une normalité, ou ce qui était leur normalité en tout cas avant, une certaine insouciance. Je pense que pas mal de gens ont perdu une insouciance. Pour ma part, c'était déjà fait. J'ai toujours été quelqu'un de très positif, très optimiste. Je me retrouve encore avec cet optimisme, mais il faut que je me batte beaucoup plus qu'avant pour pouvoir l'avoir.
Vous avez cette expression hein, dans le livre, ce sont les termes que vous employez. Je me suis senti comme vivant chez les morts. 2 ans après, comment vous vous situez par rapport à cet état d'esprit? Vous refusez donc le terme de victime, hein, vous venez de le dire. Plutôt rescapé, convalescent ou encore sidéré?
Quand vous me citez, j'ai envie tout de suite de retourner la chose. Maintenant, j'aurais tendance à me considérer mort chez les vivants.
Parce que là, vous décriviez quand vous étiez dans la fosse, au milieu des cadavres, très crûment.
Sauf que maintenant, je me retrouve vraiment dans la situation inverse. Je lutte tous les jours, pour être en vie. C'est réellement ça. Je ne pense pas qu'il y ait un survivant qui soit resté un certain temps, qui était au contact réel de cette horreur. Et malgré tout, il y a quelques personnes qui ont réussi à échapper assez rapidement, qui n'ont pas réellement compris, et c'est tant mieux pour eux. Mais pour ceux qui ont été vraiment en contact de blessés, de morts, des gens qui sont restés, ceux qui sont restés avec les terroristes assez longtemps, on n'efface pas ça comme ça.
C'est quoi qui l'emporte, la sidération ou la colère ? On ne sent pas vraiment de la colère, on sent plutôt...
La sidération, mais les réminiscences, la difficulté à respirer, purement et simplement, tous les jours. Hein.
Vous parliez tout à l'heure de l'aide d'un psychologue, justement, ce sera ma dernière question. Est-ce qu'il y a eu d'autres médecins qui vous ont aidé, d'autres praticiens, ou simplement aussi des changements dans la vie, des lectures, des sorties, des choses du quotidien qui font que on s'accroche et on est toujours là ?
Déjà, j'ai été obligé d'être suivi parce que j'étais assez près de l'explosion, donc très vite au niveau RL. Bon, il se trouve qu'il n'y a pas plus de dégâts que ça. Il s'est avéré que j'avais une tache dans l'œil droit qui est vraisemblablement due au stress, qui revient, qui fluctue en fonction de mon stress quotidien. Mais c'est surtout un soutien indéfectible de mes proches, involontairement de ma fille. J'ai mis un an et demi avant de pouvoir dire à ma fille...
C'est une petite fille. Hein,
oui, elle avait 3 ans et demi au moment des faits. Je lui ai dit là, à la rentrée, ce qui m'est arrivé. J'ai réussi à lui sortir.
Est-ce qu'elle, c'était une réalité qui existait à ses yeux, parce que les enfants sont habitués, y compris maintenant, avec les exercices de mise à l'abri qu'il y a dans les écoles. Donc pour eux, ça veut dire quelque chose, hein, ces attentats. Peut-être pas directement, c'est très compliqué à comprendre, mais est-ce qu'elle a compris que vous étiez lié à cet événement de la petite histoire des enfants, la grande histoire des adultes ?
Elle a compris ça cette année, parce qu'elle s'est mise à m'en reparler. Je lui en ai parlé il y a 2 mois, c'était tout juste après la rentrée. Et ils ont fait l'exercice il y a très peu de temps. Et là, elle m'en a reparlé. Donc elle a fait complètement le lien entre son petit jeu de la souris et du renard et ce que moi j'avais vécu. Bon, elle n'a que 5 ans, donc on va pas lui parler d'actes de guerre, mais elle a quand même pas mal percuté. Et elle avait déjà percuté à l'époque.
Merci beaucoup Fred De Wilde d'être venu dans nos studios pour nous apporter votre témoignage. Je rappelle donc le titre de votre livre publié aux éditions Le Mieux, Mon Bataclan. Vous nous avez dit qu'il y aura un deuxième tome.
Ouais, en cours.
En cours. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ce survivant du 13 novembre qui se perçoit comme un mort parmi les vivants 2 ans après, importance du contact entre rescapés, devenu une véritable communauté. Lorsque l'on revient sur le parcours de certains de ces blessés, professeur Éric Lappert, parcours terrible, hein, des heures d'opération, intervention à répétition pour certains, des greffes, les conséquences forcément des mutilations, la rééducation, ça s'accompagne bien sûr d'une prise en charge psychique, également des médicaments, tout ça c'est sur vraiment du long terme ?
Ah oui, c'est sur du long terme. Et effectivement, comme vous l'avez dit, ça s'accompagne obligatoirement. Pour nous, la blessure de guerre, le physique est indissociable du psychique. Il n'y a pas un blessé qui rentre, par exemple, dans le service que je dirige à Percy qui n'est pas vu et suivi par mes collègues du service de psychiatrie de l'hôpital Percy. On a d'ailleurs, nous, dans le service, une psychologue qui les suit au long cours, en collaboration avec le service de psychiatrie. Donc c'est vraiment important, ce parcours de reconstruction, comme je vous disais, cette interaction entre le physique et le psychique, il est indissociable.
Alors au soir du 13 novembre, les assaillants ont utilisé des modes opératoires diversifiés, fusillade pour les terrasses, attaque isolée par un kamikaze au bar Le Comptoir Voltaire, également à Saint-Denis, et une attaque complexe au Bataclan. Est-ce que le type d'attaque, différent, donc on le voit sur les différents sites, est-ce que le type d'attaque conditionne le type de blessure ? Est-ce que ça conditionne aussi l'organisation de la prise en charge ?
Alors... c'est complexe, attaque, c'est étonnant d'ailleurs ce que vous dites, parce que c'est le terme consacré par, quand, sur les théâtres de guerre, les complexes attaques.
C'est parce que je me suis renseigné pour préparer l'émission. Hein.
Oui, alors je dirais que d'une part, ça nécessite quand même un traitement, mais j'allais dire un traitement qui est d'ordre militaire ou policier, c'est évident. Est-ce que ça conditionne spécifiquement la prise en charge pour les secours ? Pas vraiment, j'allais dire, parce que ça obéit finalement à ce fameux plan blanc qui consiste, en cas de perte importante et massive, d'aller amener les secours au plus près et de les prendre en charge.
Alors, autre lieu, si vous le voulez bien, autre date, autre scène d'effroi, mars 2016, la plage de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, une attaque à l'arme automatique, 19 morts, 33 blessés, trois assaillants pendant 45 minutes. Ils tirent avec donc leurs armes automatiques sur celles et ceux qu'ils croisent, sur cette côte située à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, dédiée d'habitude aux loisirs, à la détente, à la vie quotidienne. En ligne d'Abidjan, on vous retrouve, professeur Simplice Dagnan, bonjour.
Bonjour, madame Paré.
Vous êtes directeur général de la santé en Côte d'Ivoire. Professeur Dagnan, comment s'est passée la prise en charge des blessés après cette attaque de Bassam en mars 2016?
Je vous remercie. Vous avez décrit le contexte et ce que peuvent endurer des blessés. En Côte d'Ivoire, le 13 mars 2016, à l'issue de l'attaque, nous avons reçu dans le système de santé, le premier jour, 33 blessés. 33 blessés qui ont été tout de suite pris en charge au niveau de l'hôpital de Bassam, qui ont été conditionnés, c'est-à-dire des personnes sur qui on a posé des pansements, des perfusions, fait de l'intubation, et ces malades ont été évacués vers les hôpitaux de grande envergure, comme le CHU, les trois CHU d'Abidjan, l'hôpital général de Port-Boué, et puis on a sollicité deux polycliniques de la place qui ont pris en charge des patients.
Est-ce qu'il y a eu des évacuations sanitaires vers d'autres pays une fois justement que l'on a évalué la gravité des blessures?
Bon, de façon générale, il y a une seule personne qui a été, après stabilisation des blessures, qui a été rapatriée dans son pays d'origine. Il s'agissait de l'Ukrainienne qui faisait partie des blessés.
D'accord.
C'est la seule personne qui a été évacuée à l'extérieur de la Côte d'Ivoire.
Parce qu'il y avait un certain nombre de touristes sur la plage de Bassam. Quel type de blessures présentaient ces victimes?
Alors, il y avait deux grands types de blessures. Il y a les personnes qui ont eu des balles, des blessures par balles, notamment au niveau du visage, de l'avant-bras, de l'épaule, au niveau de la cuisse, jusqu'au pied. Et puis, il y a eu des blessés légers, dû à la bousculade et puis surtout des états de choc. Voilà un peu ce que nous avons reçu. Et évidemment, deux personnes qui étaient arrivées décédées. Et dans la prise en charge, on a perdu aussi une jeune patiente de 20 ans dans la prise en charge au CHU.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui ce que sont devenues ces victimes, professeur Simplice Dagnan? On est près de 20 mois après cette tragédie de Bassam.
Bon, ces patients étaient pris en charge. Dans la prise en charge qu'on a organisée sur place à Bassam, il y avait une équipe de psychiatres et de psychologues qui systématiquement ont consulté ces patients pendant un mois et les ont référés dans leurs consultations habituelles à Abidjan, notamment à l'Institut national de santé publique et toute autre consultation à Abidjan. Ceux qui ont eu des blessures ont bénéficié de rééducation dans le service de rééducation fonctionnelle du CHU, de nos différents CHU. Le dernier à avoir quitté l'hôpital, c'était, il avait fait 3 semaines à l'hôpital. Mais après, ils ont suivi, à partir de leur domicile, des séances de rééducation. Cela dit, de façon générale, c'est les personnes qui ont réintégré la vie sociale, mais qui continuent pour les cas les plus graves, de voir de temps à autre des psychologues, des psychiatres.
Professeur Dagnan, est-ce que ces événements à Bassam ont poussé les services hospitaliers, l'administration ivoirienne, à repenser l'organisation des secours et également de certains soins?
Ah, ça c'est sûr, on ne peut pas subir, c'est la première fois que la Côte d'Ivoire subissait ce genre de drame. Évidemment que nous étions préparés avec un plan blanc qui avait été exécuté. Il y avait certainement des choses que nous avons pu regretter qui n'ont pas fonctionné, notamment par exemple au niveau de la prise en charge psychologique, puisque au premier plan, il y avait les militaires, ensuite les sapeurs-pompiers militaires et puis le SAMU. Là, on a renforcé le dispositif du SAMU en incluant maintenant les psychologues, les psychiatres, pardon, de sorte que dès les premières heures, les blessés graves puissent être pris en charge. Les CHU ont eu leur dispositif renforcé avec un statut de veille à tout moment. Et surtout que nous avons maintenant un centre des opérations d'urgence qui fonctionne et qui doit pouvoir faire face à ce genre de problèmes.
Merci beaucoup, professeur Simplice Dagnan. Je rappelle que vous êtes directeur général de la santé de Côte d'Ivoire. On retrouve, hein, professeur Éric Lappert, des situations d'urgence, des intentions, des changements d'organisation aussi de même envergure, puisque là aussi, c'était sans précédent pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que les hôpitaux parisiens ont tiré les enseignements, hein, sans jugement de valeur, de certaines erreurs qui ont été commises ?
Alors, je parlerai pas d'erreur, parce que quand j'écoutais mon collègue et le directeur des structures de soins Côte d'Ivoire, les processus sont équivalents, voilà. Et ils doivent s'affiner. On a, voilà, au fur et à mesure des événements, on pointe certaines...
C'est des enseignements.
C'est de l'enseignement, voilà. Et effectivement, c'est un peu ça, quoi. Je vous parlais du damage control, je vous parlais du tourniquet. C'est à la fois des techniques très spécifiques et aussi des processus qui s'affinent.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, certaines équipes, hein, sur le territoire français, s'entraînent régulièrement pour être opérationnelles en cas d'urgence, en cas de besoin, professeur Éric Lappert?
Tout à fait, elle le faisait déjà, de toute façon, avec les SAMU, il y a régulièrement des opérations qui sont menées, d'entraînement, de simulation, voilà. Mais peut-être qu'à travers certaines techniques, ce dont on parlait, le damage control, les histoires un petit peu des processus que nous, on a dans l'OTAN, puisqu'on fait partie du temps des rôles 1, des rôles 2. Vous voyez, c'était intéressant, en Côte d'Ivoire, ils ont rapatrié les patients à proximité de l'hôpital de Bassam, mais ils savaient très bien que l'hôpital de Bassam n'était pas structuré pour la prise en charge.
Ils ont redistribué. Ensuite.
Ils ont redistribué, ramené sur le CHU, vous voyez, c'est un peu ce qu'on fait nous, hein. On a des hôpitaux sur le terrain, ce qu'on appelle les rôles 3, et l'hôpital de Percy où je travaille est en rôle 4, voilà.
En deuxième phase, voilà. On a le sentiment, professeur Éric Lappert, que ces blessés dans leur chair du 13 novembre, finalement, ont assez peu parlé. Est-ce que c'est votre sentiment? Il y a eu bien sûr certains survivants qui se sont exprimés, mais la parole, elle est encore très complexe pour les gens qui conservent des séquelles, on peut le dire, visuelles de la tragédie.
Oui, comme on en parlait.
On peut dire qu'il y a des gueules cassées, il y a des amputés, il y a des mutilés, c'est terrible.
C'est effectivement difficile et il faut laisser à chacun du temps au temps et le laisser à chacun, parce qu'on a souvent été sollicité par les médias. Il y a ceux qui acceptent de parler, ceux qui n'en ont pas envie, ceux qui ne sont pas prêts non plus. Et là, on est dans un cadre déontologique, c'est-à-dire qu'il faut aussi protéger le patient de ces... Voilà, chaque cas est individuel et il faut le traiter ainsi.
Est-ce qu'il y a eu aussi des blocages? Là, on parle des médias, ce qui est totalement annexe et qui n'a pas vraiment grand intérêt. Par contre, des blocages de gens qui étaient incapables de libérer leur parole face, justement, vous disiez tout à l'heure, à tous ces personnels, psychiatres, psychologues, thérapeutes.
Dans un cadre thérapeutique, assez rarement. Voilà, parce qu'on est dans un cadre qui est celui du soin. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Et forcément, c'est une relation assez singulière qui est basée sur la bienveillance et la confiance.
On parlait des blessures visibles. On a évoqué aussi tout à l'heure avec le blast certaines blessures invisibles, avec certaines blessures qui sont très importantes, pas du tout accessoires, mais qu'on n'évoque pas forcément, des maux de ventre, des blessures gastriques, un stress, des douleurs respiratoires, des atteintes ORL. Tout ça, on en a finalement assez peu entendu parler.
Oui, on en a assez peu entendu parler. Évidemment, nous, voilà. On
parle... Et ça se gère sur le long cours. Hein.
Ça se gère aussi sur le long cours. On parle du blast, vous voyez. Nous, on a un projet de recherche là-dessus, justement, sur les conséquences sur le cerveau du
blast. Comment pourrait expliquer ça, un souffle dévastateur.
D'ailleurs, c'est le vent du boulet, hein, 14-18, les guerres napoléoniennes, on en parlait déjà. D'ailleurs, à l'époque, en 14-18, ils se battaient entre eux à la Pitié-Salpêtrière, il y avait des services de neurologie qui étaient militarisés. Ils disaient non, c'est commotionnel, non, c'est émotionnel. Ben, c'est un peu les deux. Sans après, on a du mal à répondre à ces questions-là. Nous, on a un projet de recherche qu'on met en place, là, justement, très spécifiquement sur les conséquences du blast sur le cerveau, qui peut, parce que vous avez un petit traumatisme crânien qui est passé inaperçu, modifier votre comportement. Au même titre, d'ailleurs, qu'en même temps, vous êtes blessé psychique et que vous avez effectivement une authentique atteinte psychologique, psychiatrique. Vous voyez, ce sont deux choses totalement différentes.
Est-ce qu'on peut parler de troubles à retardement? Je pense en particulier à certaines maladies auto-immunes qui se sont déclenchées chez des patients après, justement, les attentats.
Alors, je ne saurais vous dire. Ce n'est pas mon domaine de compétence. Je ne vais pas dire joker, mais je dis... On peut penser quand même que le stress chronique et ses conséquences, forcément ça c'est connu, peuvent générer à la fois des troubles somatiques et à la fois des troubles psychosomatiques. Voilà,
avec peut-être un suivi particulier en termes de cardiologie, par justement l'hypertension. Est-ce qu'il peut y avoir un déclenchement de facteurs d'hypertension après ce type de choc?
Bah, le stress en soi, parce que ça engendre un gros ouvrage végétatif et qui gère aussi le cœur est en grande partie régulé aussi par le système nerveux autonome, le cœur et le système vasculaire. Donc oui, on peut penser qu'effectivement, enfin c'est effectivement, ce sont, j'allais dire, toutes les conséquences du stress d'une manière générale qui peuvent être engendrées par ce type de pathologie.
Ce sera ma dernière question. J'imagine que ça va être difficile d'y répondre. Est-ce qu'on peut guérir du 13 novembre?
Peut-on guérir de l'horreur? Je pourrais vous dire, vous savez, comment vous dire ça? Je vais faire une digression, c'est Alfred de Vigny qui disait, je crois, aussi loin qu'il en paraisse, il n'est pas vrai que la guerre soit bénie des dieux. La guerre est haïe des dieux, des hommes et de ceux qui la font, ou de ceux qui la subissent.
Même quand on est militaire.
Même quand on est militaire.
Et surtout de voir justement ce terrain de l'extrême violence déborder, faire irruption, à deux pas de chez soi, en tout cas à un moment où on ne l'attend absolument pas, et c'est cette sidération absolue.
Personne n'est prévenu de l'horreur.
D'où l'importance, bien sûr, hein, vous l'avez souligné tout au long de cette émission, de la prise en charge des véritables blessures psychiques.
Tout à fait, c'est fondamental.
Merci à vous, professeur Éric Lapeyre, d'avoir participé à cette émission ce jour de commémoration, 2 ans après les attentats de Paris et de Saint-Denis. Je rappelle que vous êtes chef du service de médecine et de réadaptation à l'hôpital d'instruction des armées de Percy à Clamart, professeur agrégé du Val-de-Grâce. Et pour préparer cette émission, un livre très documenté, très complet. Son titre, « Le blessé par attentat terroriste », publié aux éditions Arnett, coordonné par le docteur Pierre Pasquier, médecin en chef à l'hôpital Percy, un de vos confrères. Les professeurs Marie-Dominique Collat, psychiatre à l'hôpital Percy, vraiment de référence. Stéphane Mera, professeur au Val-de-Grâce. Et Priorité Santé touche à sa fin. Demain, dans notre émission, nous parlerons du diabète à l'occasion de la journée mondiale consacrée à cette maladie chronique qui touche 400 millions de personnes dans le monde. Vous pouvez témoigner. Notre numéro 33 1 80 82 75 75.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.